1, 2. Ok, pas de souci. Bienvenue à vous en présentiel, sans masque. Enfin, on peut le garder, c'est la liberté de chacun, le respect de chacun aussi. Bienvenue à vous, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des visages, de voir aussi des visages complets. Donc c'est chouette de se retrouver ce matin pour ce culte. Bienvenue à vous aussi qui êtes chez vous. Alors c'est vrai que vous n'aviez pas de masque chez vous, mais pour nous c'est vrai que c'est agréable de pouvoir l'enlever. Et aussi, bienvenue aux enfants. Ça faisait 2 ans qu'on ne les avait pas revus au début du culte. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver et puis de pouvoir participer à ce moment d'église, ce moment communautaire, à enfants et adultes. Donc, merci de votre présence. Vous pouvez vous déplacer un petit peu. Ezra, tu peux te mettre sur l'autre côté du banc. Comme ça, tu seras bien, tu verras bien l'écran. Les enfants aussi, là, vous pouvez aller vers Ezra. Comme ça, vous verrez bien l'écran high-tech qu'on a mis en place ce matin. Alors, ce matin, non, d'abord, on va faire une chose. On va remettre ce culte à notre Père, à notre Dieu. D'accord ? Alors, je vous demande, on va fermer les yeux et on va prier. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce moment où nous pouvons nous retrouver ensemble, qu'on soit ici, dans ce lieu ou à la maison. Mais nous pouvons nous retrouver ensemble et Seigneur, sous ton regard. Alors Seigneur Jésus, nous voulons invoquer ton nom sur ce culte, sur ce moment ensemble, pour que nous puissions t'entendre, nous puissions entendre ta voix, nous puissions être encouragés aussi par les paroles des uns et des autres, par les chants, par le message. Et Seigneur, que tu sois présent avec nous. Et merci pour cette joie aussi de se retrouver ensemble ce dimanche matin. Alors bénis chacun d'entre nous, Seigneur, que ce soit les enfants ou les adultes. Amen. Alors ce matin, j'avais envie de faire une petite histoire. Alors, ça se passe il y a quelques années. Il y a fort longtemps, il y avait un roi qui habitait dans cette ville. Cette ville, vous savez le nom ?
En Égypte ?
Cette ville s'appelait Babylone. Et le roi, ce roi de Babylone, alors c'était un grand pays, hein, c'était grand comme plus grand que Genève, plus grand que la Suisse, c'était très grand. Et puis dans ce pays vivait ce roi qui s'appelait Belshazzar. Et ce Belshazzar, il se moquait toujours de Dieu. Alors comme il était grand, qu'il avait des armées, que c'était un grand pays, et Dieu, il se moquait de Dieu, il se moquait des croyants, il se moquait des églises, il se moquait de tout le monde. Et puis finalement, c'était pas... Ça ne plaisait pas à Dieu tout ça. Et puis un beau jour, il a fait une tellement grande bêtise, il a été prendre tout ce qu'il y avait dans tous les verres, les ustensiles qu'il y avait dans la maison de Dieu. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a distribué ça à tous ses amis qu'il avait invités pour une grande fête. Et puis il a tout distribué, et puis ils ont bu du vin, et puis ils ont commencé à critiquer, et puis à se moquer et tout. Et puis Dieu, ça ne lui a pas plu. Alors, Dieu lui écrivit une lettre. Une lettre pour dire qu'il n'était pas très, très content. Alors, dans cette grande ville où Dieu regardait ce roi, voyait ce roi, et tout à coup, qu'est-ce qu'il voit contre le mur de sa salle à manger ? Alors, les enfants ne devraient pas faire ça, hein, mais dans le mur de sa salle à manger, tout à coup, il a vu une main qui écrivait des mots sur le mur. Alors, vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'il a eu, le roi ? Il a dit, mais qui c'est qui écrit ? Je ne vois personne, il n'y a pas de main là, qui c'est qui écrit ? Alors il a commencé à avoir peur, il se disait, même il y a les genoux qui faisaient comme ça, vous savez, quand on a peur. Alors il disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est qui écrit ? Et, alors je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à lire ? Alors c'est un peu codé, c'est un peu écrit de façon que le roi n'a pas compris. Le roi n'a pas compris, alors il alla chercher tous ses savants, tous les gens qui savaient tout, sur tout, il est allé chercher, et puis il leur a dit, est-ce que vous arrivez à lire ce qui est marqué ici ? Puis les savants sont venus, ils ont regardé, ils ont discuté entre eux, et puis il n'y en a aucun qui est arrivé à lire ce qui était marqué sur le mur de sa salle à manger. Alors du coup, il avait encore plus peur. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, pour finir, quelqu'un a dit, ah, mais il y a Daniel, le prophète Daniel, c'était quelqu'un qui savait parler, qui comprenait ce que Dieu disait et qui comprenait un peu les messages qu'on ne pouvait pas comprendre. Alors, est-ce que vous arrivez déjà à lire un mot ?
L'éternel parle.
Voilà. Est-ce que vous arrivez à lire la suite ?
Encore. Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui. L'Éternel parle encore aujourd'hui. Et ce roi, alors Daniel a appris, Daniel a expliqué à ce grand roi qui se croyait au-dessus de tout le monde, qui se moquait de tout et tout, mais tout à coup qui avait très peur, il s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et puis en fait, l'Éternel parle encore. Pourquoi ? Parce que encore aujourd'hui, l'Éternel parle aussi à nous. Alors il parle encore parce qu'aujourd'hui, des fois, nous, on peut entendre Dieu nous parler. Alors peut-être pas une voix ou une main qui écrit contre le mur de la salle à manger, non. Mais on peut l'entendre dans notre cœur. Les parents aussi peuvent avoir des paroles de Dieu. Et puis, on peut aussi avoir des paroles qui sont écrites. Et Dieu nous a écrit une lettre. Est-ce que vous savez que Dieu nous a écrit une lettre ? Alors, on va encore lire ce que écrit là. Alors, qui c'est qui arrive à lire là ?
Méné. Il y a une lettre que je ne sais pas ce que c'est.
Le deuxième mot, vous arrivez à lire le deuxième mot ?
Méné.
Oui, puis le troisième.
Tekel,
oui. Et puis le dernier.
Parsin,
bravo. Donc ces trois lettres, c'est ce que Dieu a dit à ce roi et que Daniel devait apprendre. Daniel devait expliquer. Alors aujourd'hui, on a un Daniel parmi nous, c'est Philippe qui va après expliquer aux adultes ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, ce sera sa prédication. Par contre, c'est vrai que Dieu nous envoie aussi une lettre aujourd'hui à nous. On a dit avant, au travers des parents, il nous parle au travers des parents. Il nous parle aussi parce que des fois, on comprend des choses par rapport à Dieu. Des fois, c'est des amis qui nous expliquent, ou bien le moniteur de l'école du dimanche qui nous explique des choses sur Dieu. Mais Dieu vous a aussi envoyé à chacun une lettre. Une lettre, que vous soyez les enfants ou bien les adultes. Vous avez chacun reçu une lettre de Dieu que vous pouvez lire quand c'est que vous voulez. Alors, cette lettre que Dieu nous a envoyée, c'est la Bible. Alors, c'est une grande lettre, ça c'est vrai. Mais on peut lire des petits bouts chaque jour et puis comme ça, apprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu nous aime, d'une part, et puis que Dieu, c'est un grand Dieu qui a créé la terre et le ciel. Donc, dans cette lettre, vous pouvez lire des Bibles pour enfants, il y a des petites Bibles, et puis après, il y a des grandes Bibles avec tous les textes, dont notamment ces lettres que Philippe va nous expliquer tout à l'heure. Voilà, alors les enfants, si vous êtes... Voilà, c'est un peu... ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc Dieu parle encore aujourd'hui. Et puis ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chanter. Et peut-être qu'on va chanter en faisant des gestes. Vous connaissez la chanson « Je loue l'Éternel ». Alors on va se lever tous ensemble. Et puis quelqu'un que c'est les gestes. Peut-être qu'on le fait une fois. Et puis après on le fera une fois avec les gestes. D'accord ? Alors,
quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
Nous allons continuer la louange. Je vais céder la parole à Jean-Christophe et son équipe. Et merci en tout cas à eux de pouvoir animer cette louange. Pendant ce temps, je vais démonter mon petit montage.
Oh, tu peux le laisser.
Tu peux le laisser.
Ma petite télévision high-tech.
Non, laisse-le.
Non, laisse-le. Trop bien.
Alors justement, je vais commencer par lire un bout de la lettre que Dieu nous a écrite dans le psaume 97, qui dit ceci. Le Seigneur est roi, que la terre entière crie de joie, que les populations lointaines se réjouissent. Alors, au fond, pourquoi se réjouir? Pourquoi se réjouir du fait que Dieu est roi? En quoi est-ce que c'est une joie pour nous? Alors, dans ce psaume, c'est surtout de la justice de Dieu dont il est question. Et au verset 2, le psaume dit ceci: « Nuages et brouillards l'environnent, donc Dieu. La justice et le droit sont les bases de son règne. » Alors l'image des nuages et du brouillard, ça nous rappelle d'abord que nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu, qu'il y a une distance entre lui et nous, mais aussi que on ne peut pas tout le connaître tellement il est grand. Il y a cette distance entre lui et nous. Alors on pourrait être effrayé par cette grandeur, par le fait qu'on ne peut pas le connaître entièrement. On ne peut pas le maîtriser non plus. Mais cela ne doit pas nous inquiéter, car Dieu, ben justement, il est ni tordu ni corrompu. Bien au contraire, le psaume affirme le fondement de son règne, ce sont la justice et le droit. C'est important. Le psaume continue comme suit, verset 3. Un feu le précède, qui consume ses ennemis de tous côtés. Ses éclairs illuminent le monde. La terre les voit et frémit. Les montagnes fondent comme de la cire devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples contemplent sa gloire. Alors ces images, elles font référence au livre de l'Exode, quand Moïse reçoit la loi du Seigneur. Vous vous souvenez, il y a toute cette théophanie à l'Exode. Sur le mont Sinaï, c'est ça qui est rappelé ici. Sauf qu'ici, c'est plus seulement le peuple d'Israël qui peut vivre cet épisode, c'est tous les peuples. Il y a déjà un élargissement de la vision là. Alors face à un tel Dieu, la suite du psaume dit ceci, et je crois qu'on peut que l'approuver. Elle dit: honte, honte à tous les adorateurs d'idoles, à ceux qui sont fiers des faux dieux. Que tous les dieux se courbent jusqu'au sol devant le Seigneur. Si on l'apprend et s'en réjouit, les villes de Juda crient de joie devant les décisions que tu as prises, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui es le Dieu très haut sur toute la terre, bien au-dessus des dieux. Alors oui, comment s'en remettre à des faux dieux, comment en être fier, hein, comme le recommande au verset suivant, verset 10, il dit « Détestez le mal, vous qui aimez le Seigneur. » Et effectivement, hein, quel mal, quel faux dieu pourrait résister au jugement du Seigneur ? Aucun. Mais nous pouvons être assurés, et c'est là, cette fin du psaume qui est très belle, il protège la vie de ceux qui lui sont fidèles. Il délivre les méchants. Il délivre des méchants. Une lumière se lève pour le juste. Il y a de la joie pour les personnes qui mènent une vie droite. Vous qui êtes juste, réjouissez-vous à cause du Seigneur et louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Alors, je vous propose maintenant de chanter trois chants qui rappellent cette grandeur et cette souveraineté de Dieu. Et puis, entre chaque chant, on laissera un temps de silence. Et ceux qui veulent s'exprimer peuvent le faire à haute et intelligible voix. Vous faites un signe à Daniel qui passera avec le micro éventuellement. Nous allons chanter trois chants justement dans cette Dieu roi souverain. Règne en moi.
Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi.
En chaque pas,
dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi.
Certains veulent prier.
Seigneur, c'est pas toujours facile. Et nous reconnaissons, je reconnais devant toi nos fautes, nos pensées qui ne sont pas toujours à ta gloire, qui ne reflètent pas toujours ta beauté. Seigneur, merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu nous reçois dans tes bras. Tu nous entoures d'amour. Et cet amour, comme on l'a vu, comme on le sait, s'est révélé dans la croix et dans la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ et Seigneur. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Amen.
nous adorons Dieu, le souverain.
Te remercions, Seigneur, pour ce mystère assez impressionnant d'un Dieu en trois personnes que nous voulons glorifier, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Merci pour la richesse de ce que cela implique pour nous dans notre relation avec toi et dans notre relation les uns avec les autres. Tu nous aimes, tu nous sauves et tu nous accompagnes la vie durant. Et cher Seigneur, nous te disons ensemble notre adoration. Amen. Amen.
Amen. Nous allons prendre un dernier chant qui nous rappelle en particulier l'œuvre de rédemption que notre Dieu souverain a accomplie en Jésus-Christ pour nous sauver. À l'agneau sur le trône.
Thank you.
verset, je crois, parce que du coup, on n'avait pas la même version. Oui.
À la l'agneau sur son trône.
Les enfants pourront rejoindre leur école du dimanche, mais avant, j'aimerais prier pour eux et aussi pour les moniteurs. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu parles encore aujourd'hui. Éternel, tu parles encore aujourd'hui, que ce soit aux adultes, mais aussi aux enfants. Alors, Seigneur Jésus, qu'à travers les moniteurs, Seigneur, tu puisses leur donner une parole d'encouragement, une parole où ils puissent comprendre qui tu es et l'amour que tu as pour chacun d'eux. Alors Seigneur Jésus, nous voulons te remettre les moniteurs, te remettre les enfants, que tu sois aussi en leur présence. Amen. Voilà, vous pouvez rejoindre l'école du dimanche. Et merci à Denise et Chantal. Ouais, c'est chouette d'avoir les enfants avec nous, hein, pour ce début du culte. Je vais demander maintenant à Philippe de venir pour la prédication. Allez, on le remet aussi entre les mains de notre Père. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remettre Philippe, Seigneur. Merci pour parce qu'il va nous partager quelque chose que tu lui as mis sur son cœur. Et Seigneur, nous voulons entendre ta voix au travers de lui. Alors Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis aussi les lectures avec Francine, et Seigneur, que ça soit, que nous puissions entendre avec notre cœur, avec nos oreilles, et Seigneur, que ça soit ta parole que nous puissions entendre. Alors merci pour ce moment. Amen.
Amen. Merci Claude. Bonjour à chacun, chacune. Il y a des museaux qui fait bon revoir. Nous poursuivons notre parcours dans le livre de Daniel. Là où nous arrivons ce matin, Nabucodonosor est mort. Nabucodonosor est mort et il est mort il y a déjà 23 ans. À sa mort, Daniel le prophète, Daniel a été écarté de la cour. L'histoire ancienne est riche d'enseignements autour de ce que nous allons méditer ce matin. Et l'histoire ancienne nous l'apprend à la mort de Nabucodonosor, 23 ans avant. C'est l'empereur Nabonide qui lui a succédé. Nabonide, c'est le fils de Nabucodonosor. Et voilà que Nabonide a confié la responsabilité de Babylone la Grande à son fils, Belshazzar, dont le nom grec est Balthazar. Belshazzar est donc roi de Babylone la Grande, pendant que son père, Nabonide, court les campagnes militaires dans tout son empire. Nous sommes dans la soirée du 16 octobre 539 avant Jésus-Christ. Nous sommes dans la ville de Babylone. C'est une ville immensément riche, immensément puissante. C'est la capitale d'un immense empire qui couvre alors une très grande partie du monde oriental de l'époque. Babylone a un triple mur d'enceinte qui la protège.
c'est une cité forte, un triple mur d'enceinte qui la protège. Si un ennemi franchissait le premier mur, il aurait encore deux autres murs devant lui, et de toute façon, les murs sont hauts et épais, ils sont infranchissables. Pour entrer et sortir de la ville, les habitants passent par 8 portes. 8 portes qui sont chacune construites comme des châteaux forts. Pour franchir ces portes, des chars tirés par 4 chevaux peuvent se croiser sans problème. La porte la plus célèbre, qui porte le nom de la déesse Ishtar, conduit alors à une allée cérémonielle décorée de 120 lions et de 575 dragons et taureaux monumentaux. La ville de Babylone est coupée en deux par un grand fleuve qui la traverse. Ce grand fleuve, c'est l'Euphrate. Il faut l'imaginer en temps normal, avec des bateaux qui vont et viennent, qui viennent accoster au quai en plein centre-ville. La nuit, on ferme l'accès au quai. Quelqu'un de mal intentionné trouverait donc devant lui des portes fermées tout au long du fleuve. Dans la nuit du 16 octobre 539, à Babylone, au palais de Belshazzar, c'est la fête, la grande fête, la mégatof. 1000 invités. La salle du trône est grande, quasiment 900 mètres carrés. Peut-être que les invités sont serrés, peut-être qu'ils sont réunis dans d'autres salles attenantes aussi. Toujours est-il que l'ambiance de cette grande fête est surchauffée, surchauffée, surchauffée par les énormes quantités de vin que les invités sont en train de boire. La modération n'est pas de mise. Et en ville, c'est aussi la fête. Sur les quais, exceptionnellement pour cette fête, les portes ne sont pas fermées. Les gens peuvent aller et venir circuler tout à fait librement. Et certainement qu'il y a donc des soirées bien arrosées dans les 53 temples que compte la ville de Babylone. Y a-t-il des gardes postés sur les murailles? Sans doute, parce que Babylone dispose d'une grande armée et la capitale est vraiment bien protégée. Et en même temps, pourtant, les Babyloniens feraient bien de s'inquiéter un peu. Parce que le roi Cyrus, le roi des Perses, a franchi la frontière avec son armée conduite par le général Goubarou. C'est que Cyrus et le général Goubarou veulent prendre possession de Babylone, puis de tout son empire. Il a déjà livré plusieurs batailles contre les Babyloniens, sans jamais réussir à obtenir la victoire décisive. Il a déjà repoussé une armée babylonienne venant au secours de la ville, mais il n'a pas abandonné ses ambitions. Le roi Cyrus veut conquérir Babylone. Alors, depuis 3 mois, l'armée perse campe devant Babylone. La nuit, on voit les feux. Le jour, on entend des cris de guerre, des bruits de bottes. Cyrus, le général Goubarou et ses troupes ne relâchent pas la pression, pas un instant. Mais à Babylone, on pense que Nabonide, le père donc du roi Belshazzar, reviendra certainement, les prendra à revers, qu'il aura levé une nouvelle armée dans son empire, ou que de toute manière, les Perses vont finir par se lasser et s'en aller. C'est une mauvaise passe à traverser, ça finira bien par passer, et puis qui sait, il y aura peut-être quelques médiations diplomatiques de part et d'autre. Mais ce soir du 16 octobre 539 avant Jésus-Christ, si un espion venait dire au roi Belshazzar qu'à quelques kilomètres de là, l'armée perse était en train de creuser un canal pour détourner le fleuve, pour assécher le lit du fleuve. Est-ce que le roi Belshazzar comprendrait que ce serait bientôt la fin de la récréation? Je ne pense pas. Il n'y a pas d'espion, il n'y a pas d'avertissement, il y a zéro remise en question. Jusqu'au soir du 16 octobre 539, avant Jésus-Christ. Mais oublions la guerre, c'est bon, on entend assez parler, oublions la guerre. Et revenons à des choses essentielles, revenons à la fête, oublions la guerre, revenons à la fête. Une valeur sûre, la fête. Place à la fête. Et nous allons en lire le récit dans les versets 1 à 9 du chapitre 5 de Daniel.
Le roi Belshazzar offrit un grand banquet à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Sous l'influence de l'alcool, il ordonna qu'on apporte les coupes d'or et d'argent que son père Nabucodonosor avait prises au temple de Jérusalem. Le roi voulait s'en servir pour boire en compagnie de ses hauts fonctionnaires, de ses femmes et de ses épouses de second rang. On apporta donc les coupes d'or qui provenaient du temple de Jérusalem, la maison de Dieu, et le roi les utilisa pour boire en compagnie de tous ses invités. Après avoir bien bu, ils se mirent à chanter les louanges des dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois, de pierre. À ce moment précis, des doigts d'une main humaine apparurent. Ils écrivaient à proximité du porte-lampe sur le mur du palais royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il devint tout pâle et il fut terrifié par ses pensées. Il perdit sa belle assurance et ses genoux s'entrechoquèrent. Le roi ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins, et il dit aux sages de Babylone : « Celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre. On passera un collier d'or autour de son cou, et il aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages au service du roi s'avancèrent, mais aucun d'eux ne fut capable de déchiffrer l'inscription pour en donner l'interprétation au roi. Le roi Belshazzar en fut terrifié et il devint encore plus pâle. Ses hauts fonctionnaires eux-mêmes étaient bouleversés.
Vous voyez la scène? Tous ces gens qui ont mis leurs plus beaux habits, leurs plus luxueux bijoux, pour impressionner les autres. Ces femmes légèrement vêtues, ces hommes qui exhibent leurs muscles, ces gens qui font étalage de leurs relations, de leur carnet d'adresse, de leurs connaissances. Ces tables qui croulent sous la nourriture, ces esclaves qui versent le vin à flots, ces musiciens qui jouent sachant que personne ne les écoute, les dresseurs de fauves, les bouffons, les prestidigitateurs qui font leur numéro dans leur coin. Et ce roi, Belshazzar, qui tout d'un coup a envie de faire un pied de nez à Dieu. Il veut montrer que lui, le roi Belshazzar, est plus fort que le Dieu des Juifs. Peut-être veut-il montrer qu'il est plus fort que son grand-père Nabucodonosor, qui a dû s'humilier devant ce Dieu-là. Alors, le roi Belshazzar fait venir les coupes d'or et d'argent qui avaient été volées dans le temple de Jérusalem au moment où ses troupes babyloniennes ont envahi Jérusalem. Il fait venir les coupes d'or et d'argent. Les rires, les blasphèmes, les moqueries qui fusent, les coupes qui permettaient de présenter des offrandes aux dieux saints sont mises au service de la débauche et des excès en tout genre. Le sens même de la sainteté de Dieu est détourné, oublié, banni. Tenant une fille dans une main et la coupe de l'Éternel dans l'autre, Belshazzar, puissant roi de Babylone, porte un toast à sa propre personne, à sa gloire. On ne se refuse rien. Et voilà que, sous l'effet conjugué du vin, d'une foule compacte, de la chaleur des lampes, son visage est rouge. Et tout d'un coup, il blêmit, parce qu'il voit cette main qui écrit. Il tremble de tout son corps, dit le verset 6. Comprend pas ce qui est écrit. Il pense que les dieux lui envoient un message. Alors, il fait venir ses astrologues, ses magiciens, qui ne comprennent pas non plus. Et vous ? Vous auriez compris ? On va le lire maintenant. Méné, Méné, Tekel, Parsin. Méné, Méné, Tekel, Parsin. Alors quelqu'un s'en va informer la reine mère. Elle sait que déjà, du temps de Nabucodonosor, il y a bien eu des trucs un peu surnaturels, des choses troublantes. Et qu'un homme, était capable de donner le sens. Cet homme s'appelait Daniel. Ce n'est plus le jeune homme de 15-20 ans qu'on a découvert il y a quelques semaines. Ce n'est plus ce jeune homme à peine adolescent qui a été déporté de Jérusalem jusqu'à Babylone pour servir dans l'administration du roi. En 539 avant Jésus-Christ, Daniel a plutôt quelque chose comme 80 ans. C'est un senior, désormais, Daniel. Il a traversé la vie, Daniel. Il en a vu de toutes les couleurs, Daniel. Écoutez maintenant le témoignage de la reine mère le concernant, versets 10 à 12.
La reine mère entendit les cris poussés par le roi et par ses hauts fonctionnaires. Elle entra dans la salle du banquet et déclara : Que le roi vive pour toujours. Il ne faut pas te laisser terrifier par tes pensées et devenir tout pâle. Dans ton royaume, il y a un homme qui est animé de l'esprit des dieux saints. À l'époque de ton père, on a découvert en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareilles à la sagesse des dieux. C'est pourquoi ton père, le roi Nabucodonosor, l'avait nommé chef des devins, des magiciens, des astrologues et des voyants. Il possède un esprit exceptionnel, du discernement, de l'intelligence et la capacité d'interpréter les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les problèmes. Eh bien, qu'on fasse venir cet homme, ce Daniel, à qui le roi avait donné le nom de Belteshazzar, et il donnera l'interprétation de cette inscription.
Éloquent, non ? Ce témoignage de la reine-mère. On envoie donc chercher Daniel. Daniel, il a quelque chose comme 80 ans. Mais il n'a rien perdu de sa lucidité et de son courage. Il a déjà dit sans détour à Nabucodonosor des choses qui n'étaient pas pour lui plaire. Mais maintenant, Daniel se tient devant un autre tyran, éméché et terrifié, celui-ci. Voici ce que dit le roi Belshazzar à Daniel. On va écouter la suite de la lecture au verset 13 à 16.
On conduisit donc Daniel devant le roi qui lui demanda : « Es-tu bien Daniel, cet exilé juif que le roi mon père a ramené de Juda ? J'ai entendu dire que tu es animé de l'esprit des dieux et que tu possèdes de la clairvoyance, de l'intelligence et une sagesse exceptionnelle. On vient de m'amener les sages et les magiciens pour qu'ils déchiffrent l'inscription que voici et pour qu'ils m'en donnent l'interprétation, mais ils n'ont été capables de donner l'interprétation des mots. Or, j'ai appris que toi, tu es capable d'expliquer les énigmes et de résoudre les problèmes. Si tu parviens à déchiffrer cette inscription et à m'en donner l'interprétation, tu seras revêtu d'habits de pourpre. On passera un collier d'or autour de ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. »
Sacré défi. Et la réponse de Daniel est d'une fermeté remarquable. Versets 17 à 24. Daniel répondit au roi : garde pour toi tes cadeaux et tes présents, ou donne-les à d'autres. Pourtant, je déchiffrerai l'inscription, mon roi, et je t'en donnerai l'interprétation. Le Dieu Très-Haut avait donné à ton père Nabucodonosor la royauté, la grandeur, la gloire et la dignité. À cause de cette grandeur reçue de Dieu, les gens de tous les peuples, de tous les pays et de toutes les langues tremblaient de peur devant lui. Il condamnait à mort qui il voulait, il laissait vivre qui il voulait, il honorait ou il humiliait qui il voulait. Mais il devint orgueilleux et plein d'arrogance. Alors il fut renversé de son trône royal et privé de sa gloire. Il fut chassé d'entre les humains et réduit à vivre comme les bêtes. Il eut sa demeure parmi les ânes sauvages. Il se nourrit d'herbe comme les bœufs et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il y établit qui il veut. Toi, Belshazzar, son fils, tu savais fort bien tout cela, et pourtant tu n'as pas adopté une attitude plus humble. Tu as défié le Seigneur des cieux lorsque tu as fait apporter les coupes venant de son temple et que vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, tes femmes et tes épouses de second rang. De plus, tu as chanté les louanges des dieux d'argent et d'or, de bronze et de fer, de bois et de pierre, qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Et tu as refusé de rendre gloire au Dieu qui tient dans sa main ta vie présente et ton avenir. Alors, Dieu a envoyé une main tracer cette inscription. Pour l'instant, pas un mot sur les mots inscrits sur le mur. Daniel ne veut pas de ces cadeaux somptueux que le roi lui promet. Il rappelle ce qui s'est passé chez Nabucodonosor, son orgueil, sa folie, son humiliation et son repentir, repentir public en tout cas. Il dénonce le comportement indigne, irrespectueux de Belshazzar. Il dénonce sans détour son idolâtrie. Il proclame la grandeur de Dieu qui tient toute vie humaine entre ses mains et que lui, le roi Belshazzar, a méprisé. Ensuite seulement, il donne le sens de ces mots étranges. Si vous parliez, si nous parlions l'araméen, nous aurions l'impression de compter les pièces de monnaie de ce temps-là. Versets 25 à 28.
Voici l'inscription qui a été tracée. Méné, Méné, Tekel et Parsine. Et voici l'interprétation des mots. Méné signifie compter. Dieu a fait les comptes au sujet de ton règne et il y met fin. Tekel signifie peser. Tu as été pesé sur une balance et l'on a jugé que tu ne fais pas le poids. Pérès signifie diviser. Ton royaume a été divisé pour être donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar
Méné, Méné, Tekel, Parsine. Méné, Méné, Tekel, Parsine. A priori, c'est incompréhensible. Mais il y a un jeu de mots avec tout cela, un jeu de mots qui porte sur le nom des monnaies de ce temps-là. Méné, Méné, Tekel, Parsine. Une mine, un cycle, un demi-cycle. Méné, Méné, Tekel, Parsine. Méné, une mine, mais qui veut dire aussi « il a été compté ». Autrement dit, Méné, Méné, Dieu a compté, compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. C'est fini pour toi. Tekel, un cycle, qui veut dire aussi « peser ». Tu as été pesé dans la balance et tu ne fais pas le poids devant Dieu. Tu es léger, c'est fini pour toi. Parsine, un demi-cycle, qui veut dire aussi, il a été divisé le cycle. Ton royaume a été divisé. Il a été divisé et il est donné aux Mèdes et aux Perses, c'est fini pour toi. Méné, Méné, Tekel, Parsine. Et Daniel dit cela à un tyran ivre, bien capable de le tuer sur place. Et je remarque ici quelque chose d'absolument significatif. Quand Daniel disait des choses dures comme cela à Nabucodonosor, il terminait toujours par un appel à la repentance. Toujours. Il annonçait, bien sûr, quelque chose de terrible de la part de Dieu, mais il donnait au roi Nabucodonosor, le grand-père de Belshazzar, il lui donnait la possibilité de mettre un terme à ses péchés, de changer de vie, de se tourner vers Dieu. Mais ici, et c'est unique dans le livre de Daniel, ici, il n'y a aucune porte de sortie. Méné, Méné, Tekel, Parsine. C'est cuit, c'est fini pour toi. Belshazzar s'est moqué de Dieu une fois de trop. Et Daniel le lui dit. Et il ne tourne pas autour du pot. Méné, Méné, Tekel, Parsine. Comptez, comptez, pesez. Divisé. C'est fini pour toi. Quand je lis ce texte, Je me dis que c'est parfois pareil pour nous. Et je me permets ce matin, nous devons l'entendre. Pour l'instant, c'est toujours le temps de la récréation. On vit, on vole, on survole. Tout va bien, non ? Globalement, tout va bien. On imagine parfois qu'on va bien pouvoir se rattraper si jamais ça file du mauvais coton. Qu'il y aura bien une autre chance. Et qu'en attendant, on peut bien faire ce que l'on veut. Jouer avec Dieu. Jouer avec les autres. Vivre sa vie comme on l'entend. Ne pas tenir compte des chances et des occasions qui nous sont données pour nous réaligner. C'est un peu comme danser sur un volcan ou construire en zone inondable. Mais Dieu sait quand c'est trop tard. Dieu décide quand c'est trop tard. Et nous pourrions peut-être avoir de mauvaises surprises parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand on pense au jugement de Dieu, quand on sait ce que représente la colère de Dieu, est-ce qu'on ose encore en parler ? Est-ce qu'on ose encore le dire ? Il y a ce vieux verset qui a bercé toute mon enfance jusqu'à me surgaver, mais que je ne veux pas laisser de côté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas. Malgré la dureté de ses propos, Daniel inspire un certain respect. 80 ans, voilà un homme toujours crédible. Les années ne l'ont que bonifié. Et j'espère qu'il en est ainsi pour nous, j'espère qu'il en sera ainsi pour nous, des années qui nous bonifient. Alors Belshazzar honore sa promesse et donne à Daniel les insignes des plus hautes fonctions. C'est la fête. Pendant que tout cela se déroule dans le palais du roi, il se passe des choses à l'extérieur de la ville. L'histoire ancienne nous apprend qu'à ce moment-là, l'armée perse a fini de creuser son canal au nord de Babylone. Elle fait alors sauter un dernier barrage, et c'est tout le fleuve de l'Euphrate qui quitte son cours habituel et qui s'en va ailleurs dans le canal creusé au nord de Babylone par l'armée perse. Très rapidement, le lit du fleuve est à sec. Et c'est maintenant un immense boulevard qui permet au général perse Goubarou et à son armée de franchir la triple muraille de Babylone et d'arriver au cœur de la ville, sans histoire, par le lit du fleuve asséché. Et sur les quais, les bateaux reposent çà et là sur le sable. Les portes donnent accès à la ville parce qu'elles sont ouvertes pour la fête. Les soldats pénètrent dans la ville et se dirigent droit vers le palais. Daniel 5, verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède accéda à la royauté. Cela se passe le 16 octobre 539. C'est la fin de la récréation. C'est l'heure des comptes. Le grand paradoxe du jugement, c'est que le mal devient le combustible dans la fournaise du salut. Darius le Mède est installé par Cyrus le Grand et il monte sur le trône de Babylone. Il va pouvoir accomplir le plan de Dieu en libérant les Juifs de 70 ans de captivité. Il va faire reconstruire le temple et permettre le retour des captifs. Dieu a sonné la fin de la récréation. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? J'aimerais nous laisser avec une lecture biblique et quelques questions. La lecture biblique, je vais l'emprunter à l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, à partir du verset 12. Hébreux 12, à partir du verset 12. Redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux chancelants. Engagez vos pas sur des sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se déboîte pas, mais qu'il guérisse plutôt. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de vivre pour Dieu, car sans cela, aucun de vous ne verra le Seigneur. Prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Qu'aucun de vous ne vive dans la débauche, que personne ne méprise ce qui vient de Dieu, comme Ésaü, qui pour un simple repas vendit son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il voulut recevoir la bénédiction de son père, mais il fut repoussé. Il ne trouva aucun moyen de changer la situation, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Vous ne vous êtes pas approché de quelque chose qu'on pouvait toucher. Le mont Sinaï avec son feu ardent, l'obscurité, les ténèbres, l'orage, le bruit d'une trompette et le son d'une voix. Quand les Israélites entendirent cette voix, ils demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. En effet, ils ne supportaient pas cet ordre. Tout être qui touchera la montagne, même s'il s'agit d'un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je tremble tellement je suis effrayé ». Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges. Vous êtes approchés d'une assemblée en fête, celle des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont écrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les humains et des esprits des êtres justes qui ont été conduits à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'Alliance nouvelle et de son sang répandu, qui parle d'une manière plus favorable que le sang d'Abel. Et quelques questions. Quelques questions. Ne croyez-vous pas que Dieu est le maître de toutes les royautés? Quand je regarde les tyrans de nos temps présents, les dirigeants de nos temps présents, ne croyez-vous pas que Dieu est maître de toute royauté? Pensez-vous que l'on puisse jouer avec Dieu? Croyez-vous pas qu'il est dangereux de se moquer de Dieu? Croyez-vous pas qu'il y aura un jour un jugement et beaucoup de gens seront trouvés légers au moment d'être évaluer? Ne croyez-vous pas qu'il est possible de rester fidèle à Dieu jusqu'à 80 ans et plus, comme Daniel? Ne croyez-vous pas que nous pouvons dire la vérité à n'importe qui? Ne croyez-vous pas que Dieu maîtrise les événements de la vie pour le bien de celles et ceux qu'il aime? Je vous laisse avec ces quelques questions que je me pose sans cesse à moi-même.
Je vous propose d'entrer dans un petit moment de prière communautaire. C'est vrai que toutes ces réflexions, toutes ces questions nous font réfléchir. Et nous clôturons ce moment par le Notre Père. Alors merci si après il sera possible de le mettre sur l'écran. Prions. Oui Seigneur, toutes ces questions qui sont soulevées. Seigneur, c'est vrai qu'on n'est pas sûr de pouvoir y répondre à toutes. Mais Seigneur, c'est vrai que nous voulons nous humilier, Seigneur, et se dire, comme l'a dit aussi Paul Robert, Seigneur, que on essaye, on n'y arrive pas toujours, on n'arrive pas toujours à avoir notre Père. Et Seigneur, c'est vraiment avec humilité que nous approchons de toi. Merci aussi, Seigneur, parce que au-delà de nos fautes, Seigneur, il y a, quand elles sont pardonnées, quand tu les as pardonnées, Seigneur, il y a une perspective qui s'ouvre, comme pour ce retour d'exil. Et Seigneur, nous pouvons, merci parce que nous pouvons déposer à tes pieds, Seigneur, nos erreurs, notre orgueil, toutes ces choses, Seigneur, qui nous freinent à notre relation avec toi. Père, merci parce que ce n'est pas la fin. Seigneur, nous pouvons avoir une perspective de vie. Tu nous donnes une perspective de vie, contrairement à ce qu'a eu Belshazzar. Alors, Seigneur, merci pour cette espérance aussi, de cette vie nouvelle que tu proposes et que tu donnes, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas l'oublier non plus. Amen. Alors, levez seulement la main et je vous passerai le micro.
Et Seigneur, merci aussi aujourd'hui pour ces visages retrouvés, pour cette possibilité de se réunir beaucoup plus facilement. Merci pour tout ce que tu nous donnes dans ce domaine également. Amen.
Oui, Seigneur, je crois que je peux dire la vérité à n'importe qui. Ce n'est pas ma vérité, c'est ta vérité. Alors, donne à moi, Seigneur, cette force pour dire cette vérité à n'importe qui. Amen.
Ô Père Céleste, merci pour ta parole puissante qui nous rejoint ce matin, qui nous rappelle que c'est la même hier, aujourd'hui, demain. Et que dans ces temps troublés, au niveau mondial qui se passe, j'ai l'impression que c'est un copier-coller. Cette parole qui reste vivante et qui nous rejoint dans nos vies aujourd'hui. Nous te demandons ensemble d'apporter de la sagesse à tous ces dictateurs de tous bords qui pensent être au-dessus de Dieu. Mais plus proche de nous, Seigneur, merci de nous aider à réaliser que maintenant encore, c'est le temps de la liberté, de la bénédiction, du pardon possible. Merci de visiter nos cœurs et de nous aider par ton Esprit Saint, à répondre fermement à toutes les questions posées par Philippe. Garde-moi, Seigneur, dans ma propre vie et conduis-moi dans ta sagesse et ta justice. Je veux t'apporter toutes choses dans le nom de Jésus-Christ qui nous a rejoints. et qui nous permet d'aller plus loin. Béni sois-tu, loué sois-tu pour toutes choses. Amen.
Seigneur, c'est le temps de ta patience, et pourtant ta patience a des limites, comme nous venons de le lire dans ce récit. On ne se moque pas de toi. Seigneur, donne-nous de prendre au sérieux ta parole, de prendre au sérieux la réalité de ton existence, de ta vie, de ta présence au milieu de nous. Et ta grâce encore donnée aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, c'est à toi que nous voulons, c'est vers toi que nous voulons nous tourner. C'est vers toi, c'est toi que nous voulons prendre au sérieux. Seigneur, que ton esprit nous visite, que ton esprit nous transforme à ton image, par Jésus. Amen.
Oui, Seigneur, pour moi, mais pour chacun, qu'au temps du jugement, nous ne soyons pas trouvés légers. Oui, Seigneur, aide-nous à vivre avec toi sur cette terre. Amen.
Oui, je vous propose que nous récitions le Notre Père. Je vous propose qu'on se lève pour dire la prière de notre Seigneur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Je vous propose de rester debout pour un dernier chant à la gloire de notre Père. Majesté, c'est vraiment un beau chant qui résume bien cette majesté de notre Dieu. Joanne, pour les annonces.
Bonjour à chacun. Alors, puisqu'on a parlé de choses qui sont écrites sur les murs, vous avez un magnifique tableau blanc à l'entrée qui a été soigneusement préparé par... Maïka et Mathieu, vous avez toutes les annonces de la semaine et les suivantes aussi, donc je vous laisserai les lire. Merci. Ah, et pour ceux qui sont en ligne, parce que vous ne pouvez pas venir les lire, alors je vais essayer de mettre un peu d'ordre parce que je rentre de vacances, donc ce n'est pas simple. Alors, vendredi, il y a le caté à 17h pour les 11-15 ans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui ont des enfants, vous pouvez vous adresser auprès des pasteurs. Donc, c'est ce vendredi à 17h, ici à l'EM. Dimanche prochain, échange de chair. Mais on garde les mêmes noms et on recommence. Donc, c'est avec l'Église L'Espérance à Nancy. Donc c'est le pasteur Benjamin Anchaud qui viendra ici et le pasteur Philippe Anchaud qui ira là-bas. Je ne crois pas qu'il vient de parenté. Non. Ok. Benjamin Anchaud que vous connaissez pour certains puisqu'en fait il était pasteur stagiaire dans notre église il y a de ça quelques années, 4-5 ans je pense. Voilà. Donc ça c'est dimanche prochain. Ensuite, le 5 mars. Vous avez peut-être vu ces flyers, Quand la beauté du Christ rayonne à Mérin. Donc c'est une journée, si l'unité des chrétiens à Mérin vous tient à cœur, n'hésitez pas à vous inscrire. Dernier délai jusqu'au 22 février, donc dépêchez-vous, vous pouvez prendre des flyers qui sont à l'entrée. Et donc c'est avec un invité qui est Shafik Keshavji, que beaucoup d'entre vous connaissent, théologien, pasteur et auteur. Ensuite, le dimanche 6 mars, il y a le derby des bois. Si vous aimez courir, marcher aussi, vous pouvez vous adresser à Claude pour participer et se faire faire même des t-shirts avec une petite inscription de l'église, un petit message si vous voulez proclamer l'évangile en courant. Si vous aimez les histoires et la musique, dimanche 13 mars à 17h30, ici à l'EM, vous avez la boussole et le baluchon. Excusez-moi. Donc, venez nombreux. Là, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Donc, c'est des histoires qui sont racontées avec de la musique. Donc, n'hésitez pas à venir et inviter des proches. Bon, on avance. Ok, très bien. Je remets de l'ordre, hein, parce que les vacances, ça aide pas. Ensuite, le dimanche 1er mai, culte. Oui, on se remet les idées en place. Le culte des baptêmes. Donc, si vous êtes intéressé par le thème du baptême, déjà, vous pouvez suivre une formation. Donc, là aussi, vous pouvez vous adresser à nos deux pasteurs pour en savoir plus. Et si aussi vous êtes intéressé à vous faire baptiser, n'hésitez pas à faire appel au pasteur. Ensuite, dimanche 22 mai, je ne sais pas si on a un petit flyer à mettre, non. Réservez cette date, c'est la sortie d'église, donc vous recevrez plus d'informations par la suite, mais réservez cette date, ça sera l'occasion justement de se revoir tous ensemble, maintenant que les mesures sont bien levées. On verra d'ici là si par conditionné, mais comme c'est à l'extérieur, on pense réellement que ça sera l'occasion de pouvoir le faire. Donc c'est une sortie en église à la Vallée de Joux, à la cantine du Solia. Donc il y a à la fois une partie à l'intérieur, une fois partie à l'extérieur. Donc c'est une option qui permet de passer peut-être par certaines mesures qui pourraient revenir. Donc cette option un peu plus facile qu'un week-end. Donc il y a le dimanche 22 mai, et puis aussi retenez déjà dans vos agendas, et on l'a déjà dit les dernières fois, le jeudi 8 septembre, Jeune Genevois, merci. Et puis je rappelle encore que les pasteurs sont à disposition à la fin du culte, si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, et puis aussi vous rappeler que l'Église vit aussi au travers des dons et des offrandes qui sont faites par chacun. Et vous pouvez trouver à la sortie soit la petite corbeille pour placer votre offrande, soit vous avez le moyen Twint ou par compte de chèque postaux. Merci beaucoup. Bon dimanche.
Oui. J'ai une toute petite annonce. Je vous apporte des salutations à toutes et tous. Des SOL, Dominique et Roger, nous sommes allés les trouver pendant un petit voyage que nous sommes au sud. Ils vont bien. Ils vont bien.
Pour ceux qui sont en ligne, donc salutations des Sewell, notre ancien pasteur, ils vont bien.
Je précise juste que la formation baptême, elle va tenir en une matinée, éventuellement une après-midi, mais pas plus qu'une demi-journée, 2 ou 3 heures, si, voilà, pas que vous soyez effrayés, si vous comptez participer à cette formation. Pour la bénédiction. J'aimerais finir la lecture, je vous invite à vous lever, j'aimerais finir la lecture que j'ai démarrée en Hébreux 12. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Ceux qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À bien plus forte raison, nous n'y échapperons pas si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux. Autrefois, sa voix a ébranlé la terre, mais maintenant, il nous a fait 7 promesses. J'ébranlerai encore une fois, non seulement la terre, mais aussi les cieux. Les mots, encore une fois, montrent que les choses créées seront ébranlées et disparaîtront, afin que seul demeure ce qui est inébranlable. Soyons donc reconnaissants. Puisque nous recevons une royauté inébranlable, manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. En effet, notre Dieu est un feu qui consume. Dieu, source de la paix, a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus. devenu le grand berger des moutons grâce à son sang, qui garantit l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous fassiez sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Amen. Allez en paix. Belle semaine. Que Dieu vous garde.